Tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort. Unverzüglich. 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 Unverzüglich.
Je m'appelle Andrea, j'ai grandi à Berlin-Est et j'avais 18 ans quand le mur est tombé.
Et oui, il y avait les bananes aussi, tu continues. Ouais,
Mais ça, j'ai déjà raconté les bananes.
Du coup, t'en manges...
Est-ce que j'en mange encore? Oui, j'en mange encore.
Est-ce que tu penses à l'RDA à chaque fois que tu manges une
banane? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ça m'a marqué puisque c'était quand même mon enfance. Mais en même temps, pas croire que tout ce que je fais aujourd'hui n'est pas lié à ça. Bien sûr que ça marque, parce qu'on est tous marqués par la manière quand on grandit. Hein, ça peut être pareil en France. Si je grandis en fin fond de la Creuse, voilà, je vais différemment réagir que si j'ai grandi dans le 16e arrondissement à Paris. Donc aujourd'hui, ça ne me poursuit pas trop. Par contre, c'est là où peut-être qu'on le voit encore, en tout cas, c'est ce que les amis me disent, c'est que je suis très débrouillarde. Donc j'arrive à vraiment toujours à trouver une solution avec trois fois rien, j'arrive à faire des trucs. Alors ça vient peut-être de là, parce qu'on a grandi comme ça, hein. il fallait très débrouillard. Je râle peu, on va dire. Parce qu'en fait, je trouve que c'est tellement merveilleux, c'est peut-être ça, il faut peut-être grandir dans un pays comme ça pour comprendre à quel point on est bien, quoi. Des fois, je me dis, mais quand les Français, c'est les gros râleurs quand même, hein, je les aime beaucoup, hein, mais qu'est-ce que ça râle? Bah, il faudrait peut-être passer quelques années dans un pays comme la RDA, hein, derrière un rideau de fer, parce qu'on a une vie mais tellement belle. C'est pour ça que des fois, je me dis, mais waouh! Des fois, j'ai encore ce waouh! On est libre, on a les magasins, mais plein, même trop. On peut se dire, tout est possible. Je peux me dire, bah, l'année prochaine, je vais voyager en Asie du Sud-Est ou... Et même si on ne le fait pas, mais c'est possible. On est dans un pays où on peut dire ce qu'on pense, on peut... Enfin, en fait, c'est incroyable. Les gens ne se rendent pas compte du bonheur de vivre dans un pays libre. Et on est, en fait, on est très, très riche. Hein. Même le plus pauvre d'entre nous, finalement, il est très riche. Et ça, je pense que je l'ai gardé, ça. De me dire, mais qu'est-ce qu'on est bien, quoi.
Et c'est un peu ça, à travers les bananes, se dire, bah, tiens, là, j'ai droit, en fait.
Ouais, si tu veux, ouais. D'ailleurs, je me demande, est-ce que j'ai mangé la dernière banane? Mais, mais c'est un tout, se dire, en fait, ça a des avantages et des inconvénients. Si tu veux, les inconvénients, c'était que, quand on avait la fameuse banane, enfin, mais c'était une fête ce jour-là, c'était génial. Ou quand on avait trouvé un jean ou une paire de baskets, on achetait même la mauvaise pointure, c'est pas grave, hein, parce que voilà, on prenait ce qu'il y avait. Hein. Et c'était vraiment un événement tellement fort, c'était quelque chose. Alors qu'aujourd'hui, c'est banal. Il y a peut-être plus autant de choses qui nous font rêver, parce que tout est accessible. Même si c'est peut-être pas accessible tout de suite, mais potentiellement, tout est accessible. Alors que c'est vrai qu'en Allemagne de l'Est, on avait des rêves. Je me vois encore derrière ce mur. Le mur, il coupe vraiment Berlin en deux. Hein. Et donc des fois, je m'y rendais. Je ne pouvais pas l'approcher complètement. Je pouvais l'approcher, je ne sais plus, à quelques centaines de mètres. Et je voyais des oiseaux voler au-dessus du mur. Et je me disais, mais quelle folie quelque part. Eux, ils peuvent faire ça, ils peuvent y aller comme ça. Et revenir. Et moi, je suis là. Et ça se trouve, je ne vais jamais voir... ni de l'autre côté de ma propre ville, ni voir le monde. Je vais peut-être jamais voir l'Asie, je ne vais jamais voir l'Amérique. C'est des choses que je vois à la télé, parce qu'on avait une émission un peu comme en France, là, la croisière s'amuse, des trucs comme ça. Ça faisait rêver. Et en fait, c'était inaccessible. Ou aller de voir un concert. Je me rappelle, par exemple, une année, il y a eu un concert de Michael Jackson. Et en fait, il a fait, je pense que c'était fait exprès, il était en plein air, il était très très proche du mur. Côté Berlin-Ouest, évidemment. Donc, il y a eu un attroupement de gens. Voilà, moi, je n'y étais pas, mais je n'étais pas au courant. Mais il y avait des gens qui étaient de l'autre côté et qui essayaient de choper un petit peu de quelques sons, un peu de musique, un peu de rêve. Et en se disant, mais jamais de notre vie, on va pouvoir assister à un concert comme ça. Jamais. Paris, on ne le verra jamais. Londres, je ne le verrai jamais. Pour nous, c'était vraiment inimaginable que ce mur tombe un jour. Enfin, j'y pensais pas du tout. Pour moi, c'était soit rester là, avec ses rêves, et ne jamais pouvoir y accéder, soit c'est d'essayer de s'enfuir. Il y a eu pas mal, voilà, il suffit de regarder des films, hein, il y en a eu beaucoup, beaucoup. Les gens étaient très inventifs, hein. Ils ont creusé des tunnels, ils ont fabriqué des montgolfières avec des moteurs de Trabant ou de je sais pas quoi, des sous-marins. En fait, les gens, ils ont risqué leur vie pour s'enfuir. Et beaucoup l'ont payé avec leur vie. Et c'est vrai que j'en parlais des fois avec mon copain de l'époque, qui lui, il avait envie de s'enfuir. Et je crois que j'aurais pas osé. Moi, je disais, je n'ose pas, quoi. Parce que le...
Oui, tu renonces à toute ta famille, en fait.
Alors, tu renonces à toute ta famille, je t'avoue, même ça, quand tu as 17, 18 ans et quand tu as juste une envie, c'est de la liberté, c'est même pas ça qui m'a retenue. Ce qui m'a retenue, c'est qu'on savait, et ça, ça se savait, que les gens qui essayaient de s'enfuir, les soldats qui gardaient le mur, ils avaient consigne de tirer et de tirer, de tuer. Ouais. Et ça, ça se savait. Régulièrement, je ne sais pas combien de gens sont morts au mur, hein, et beaucoup de jeunes d'ailleurs. Et j'aurais pas osé. Enfin, on risquait clairement sa vie. Hein. Et après, il y a eu le fameux été 89. Veux-tu que je t'en parle ?
Ah bah oui, parlons de l'été 89.
Parlons de l'été 89.
Il a passé où ?
Ah bah chez moi. Bêtement chez moi. Alors, il faut peut-être même monter un petit peu avant. Fin 88, peut-être début 89, il y a eu des grosses manifestations qui ont commencé dans les villes allemandes. Des manifestations pour plus de liberté, pour la liberté de parole, liberté d'élection, liberté de voyager, etc. Ils ne voulaient pas du tout l'abolition de l'Allemagne de l'Est, hein. Ils voulaient tout simplement plus de liberté. Et au début, c'était des petites manifestations assez confidentielles. D'ailleurs, ils se regroupaient beaucoup dans les églises parce que c'était le seul endroit où ils étaient un peu protégés de l'État. Petit à petit, ça a pris de l'ampleur. Il faut dire que ça tombait aussi dans l'époque de la perestroïka. Donc de Gorbatchev, qui était chef d'État de la Russie et qui était beaucoup plus ouvert, on va dire, à un rapprochement avec l'Occident que les dirigeants russes d'avant. Et donc, du coup, les gens ont pris le courage, en fait, de manifester, parce qu'il y a des manifestations qui ont existé, évidemment, dans l'histoire de la RDA, mais où la Russie a envoyé des chars, il y a eu des morts, ils les ont vraiment arrêtés dans le sang. C'est comme ça qu'on tenait les gens, d'ailleurs. Et donc, du coup, là, les manifestations ont pris de l'ampleur, et tellement d'ampleur qu'à la fin, je ne sais pas combien ils étaient dans les rues. Ça a commencé à Leipzig, après, c'était à Berlin. Ils étaient des centaines de milliers, voire à la fin, peut-être des millions de gens à manifester. Ça, c'était un petit peu en amont de l'été 89. Ensuite, l'été 89, il y a des gens qui étaient en vacances en Hongrie, qui se sont donc des Allemands de l'Est. Parce qu'il faut savoir qu'on n'avait pas le droit de voyager dans les pays occidentaux, mais on avait le droit de voyager dans les pays du bloc de l'Est. Donc Roumanie, Bulgarie, Tchéquie, Russie, etc. Les gens se sont réfugiés en Tchéquie, à Prague, dans les ambassades de l'Allemagne de l'Ouest. Les ambassades ont été littéralement envahies. On a l'impression que c'est des camps de migrants. Hein. Il y avait des tentes de partout, des familles entières, etc., qui se sont réfugiées dans les ambassades en demandant à l'ambassade de les faire sortir, de leur permettre de regagner l'Allemagne de l'Ouest. Et donc, il y a eu tout un été assez fou. D'ailleurs, dès que c'est arrivé, évidemment, on n'arrivait plus d'avoir de visa, d'obtenir des visas pour aller dans ces pays-là. Donc, c'était que les gens qui étaient par hasard ou qui, je ne sais pas, dans ces pays-là qui ont pu le faire. À un moment donné, ils ont d'ailleurs fermé les ambassades parce qu'ils ne pouvaient plus accepter des gens. C'était très gênant pour l'RDA aussi, d'ailleurs, tout ça, parce que c'est des images, évidemment, qui ont circulé de partout. Il y a des ambassades ensuite qui ont négocié avec l'RDA de pouvoir transporter ces gens jusqu'à l'Allemagne de l'Ouest. Donc, il y a eu des trains, parce qu'il faut imaginer la Hongrie et la Tchéquie pour aller de là jusqu'à l'Allemagne de l'Ouest ou Berlin-Ouest. Eh ben, il fallait traverser tout le territoire de l'Allemagne de l'Est. Et donc, ils ont affrété des trains qui se sont arrêtés nulle part et qui ont transporté tous ces gens qui ont eu autorisation de partir vers des camps, on va dire, d'accueil à Berlin-Ouest et en Allemagne de l'Ouest. Donc, ces trains-là, je me rappelle très bien. Bon, moi, j'étais pas, mais j'ai une très bonne amie qui était en Hongrie à l'époque avec son copain qui était français en plus parce qu'ils se sont rencontrés en Hongrie parce qu'il était en vacances là-bas et elle aussi. Et qui ont essayé du coup de s'enfuir. Ils ne pouvaient plus aller dans les ambassades parce que c'était plein, on ne prenait plus. Ensuite, ils ont essayé de traverser la frontière à pied entre la Hongrie et l'Autriche. parce que la Hongrie, en été 89, contrairement aux années d'avant, n'arrêtait plus les gens pour les mettre du coup dans les mains de la Stasi ou de la police est-allemande. Il est ramené, mais il est laissé. Voilà. Et donc, des gens essayaient de passer la frontière la nuit. Ils essayaient une fois, deux fois. Bon, bah, ils étaient ramenés par la police hongroise, mais ils retentaient la nuit d'après. Donc, ils ont essayé ça aussi, sauf qu'ils n'ont pas réussi. Et ils se sont enfuis via l'Autriche, dans un train. Les trains n'étaient plus contrôlés par des chiens, comme avant, qui contrôlaient ces trains-là pour savoir s'il n'y avait pas des gens qui se cachaient quelque part. Et donc, mon ami, qui était des Berlin-Est, s'est caché sous un siège. Et son copain français s'est assis sur le siège et ils ont traversé comme ça la frontière. Elle avait 17 ou 18 ans, je crois. Ont traversé la frontière et quand ils étaient arrivés sur le territoire autrichien, ils étaient sortis d'en dessous le siège. Les gens dans le compartiment n'étaient même pas au courant. Ils ont fait une grosse fête. Donc voilà, donc ça c'était des histoires qui se sont passées l'été 89. Moi j'ai regardé tout ça à la télé. Bon, c'était trop tard, hein. On ne pouvait plus aller dans ces pays-là pour obtenir un visa. Donc on les voyait partir, mais même à ce moment-là, on n'aurait jamais imaginé que le mur pouvait tomber. On pensait qu'il y en a eu des chanceux qui ont réussi à obtenir gain de cause et à partir, mais nous, on ne pensait vraiment toujours pas. Hein.